Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Je reçois aujourd'hui Rémi, un père engagé pour la parentalité. Il va répondre à plusieurs de mes questions, mais comme l'interview était très longue, plus de 2 heures, vous allez avoir ses réponses en 2 épisodes. Belle écoute pour cette première partie et vous aurez la deuxième partie la semaine prochaine.
Bonjour Rémi, bienvenue sur le podcast des Petits Plus Zen de manière officielle. Comment vas-tu ?
Merci, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui.
Alors, on se connaît depuis un peu plus de 2 ans, on s'est rencontrés sur Clubhouse. Au début, je ne savais même que ton rôle de papa. Tu venais intervenir dans les rooms que je proposais les lundis après-midi sur la parentalité. Et puis après une 20aine d'échanges, j'ai fini par savoir ce que tu faisais au niveau pro. Donc, tu vas pouvoir nous dire ça très prochainement. Et toutes nos rooms sur la parentalité ont continué, on a co-hosté des rooms ensemble. Donc, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Ça fait énormément grandir ma vision du père, le nouveau père tel qu'il réfléchit en 2023. Donc, j'avais vraiment envie de t'interroger sur le podcast à propos de la place du père. Merci d'avoir répondu favorablement à mon interview. Est-ce que tu veux bien te présenter, perso, pro, familial, tout ce que tu veux nous dire aujourd'hui ?
Oui, alors, tu sais que c'est un exercice que j'apprécie particulièrement.
Challenge.
Et voilà, j'adore ça. J'adore me présenter. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à dire et je ne voudrais pas tout mélanger pour faire une sorte de boogie-boulga qui soit pas très digeste. Donc l'exercice d'essayer de synthétiser le truc pour pas donner trop de bazar dans ce que je dis, c'est toujours un sacré challenge comme tu dis. Effectivement, je m'appelle Rémi. Sur les réseaux, mon pseudo c'est Kinoko Rémi. J'ai la 30aine, je suis le papa d'une petite fille de 4 ans. Et avec ma femme Julie, du coup, il y a quelques années de ça, on a créé notre marque Kinoko, dans laquelle notamment on accompagne les femmes entrepreneurs dans le développement de leur business en ligne. Et en dehors de tout ça, en fait, avant même d'être parent, j'ai toujours été très intéressé par le sujet du développement de l'enfant. D'une part, je pense, parce que j'ai vécu une enfance un peu... Je pense comme beaucoup d'entre nous, on a tous eu des enfances plus ou moins mouvementées. Et j'ai aussi été témoin de l'enfance mouvementée de mon petit frère. Et du coup, ça m'a fait me remettre beaucoup en question sur ces aspects-là. Et c'est ce qui a fait que ça m'a beaucoup intéressé. J'ai aussi... Alors, ça a été un gros sujet sur Clubhouse pendant longtemps, hein, tout ce qui touchait à l'école notamment et à l'instruction en famille qui arrive ensuite. Voilà, j'ai subi du harcèlement scolaire. J'ai pas eu de très bonnes relations avec mes professeurs. Et donc, j'ai eu l'ambition de me dire je vais presque par revanche de mon histoire avec l'école, je vais devenir le professeur que j'aurais toujours rêvé d'avoir, que je n'ai pas eu. Donc j'ai commencé des études pour être prof. En parallèle de ça, j'ai travaillé en tant qu'animateur dans des écoles élémentaires et maternelles. Mmh. Et malheureusement, au fur et à mesure, en fait, avec ces 5 années que j'ai fait en tant qu'animateur, de voir tout ce qui se passait en fait de l'autre côté du banc scolaire, du côté de l'équipe enseignante, ça m'a beaucoup dégoûté de tout ça. Et donc, je suis pas allé au bout. Et puis, en même temps, avec mes études de prof, quand on t'explique tout ce qui se passe ensuite de manière administrative, etc., pour évoluer dans ta carrière, pour savoir où est-ce que tu vas être positionné dans telle ou telle école, etc. Enfin, ça m'a semblé devenir très, très anxiogène. Et du coup, j'ai complètement laissé tomber. Je me suis éloigné de tout ça. Mais pour autant, le sujet de l'enfant est resté quand même très ancré dans mes intérêts. Et il y avait ma femme qui me disait souvent pourquoi tu partages pas cet intérêt sur les réseaux, pourquoi tu crées pas du contenu autour de ces sujets-là qui t'intéressent beaucoup. Et ma réponse, la plupart du temps, c'était que, notamment, je me sentais pas légitime de parler de ces sujets-là tant que j'étais pas parent, tu vois. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée en tête, mais j'avais l'impression que c'était un sujet que seuls les parents peuvent s'accaparer, tu vois, je sais pas. Alors qu'aujourd'hui, en étant parent, je me dis que non, en fait, des personnes qui ne sont pas parents sont tout à fait... Enfin, moi, en tout cas, je les accueille, tu vois, dans les discussions sur ces sujets-là, même s'ils sont pas parents, y a pas de souci. Mais je sais pas pourquoi j'avais cette croyance limitante me concernant. Et quand je suis devenu papa, donc il y a 4 ans, là, j'avais plus d'excuses. J'avais plus d'excuses, donc j'ai fini par me lancer sur Instagram d'abord pour documenter cette grande nouvelle aventure. Et puis aussi, en fait, les premiers mois, je me suis rendu compte que le fait d'avoir une vision différente de la parentalité, de ce que l'on souhaitait comme choix éducatif, c'était encore une fois, c'était très anxiogène par rapport à mon entourage qui avait une vision très 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 différente aux antipodes. Donc cette création de contenu sur Instagram, c'était aussi l'occasion de me créer une petite bulle où je parvenais à m'entourer de personnes qui avaient un peu ces visions similaires aux nôtres et un peu une bouffée d'oxygène par rapport à l'entourage qui était très anxiogène. C'était une bulle qui m'a fait beaucoup de bien, malheureusement, je sais pas si je peux dire malheureusement, je sais pas si je peux dire que ça n'a pas duré, parce que si, j'ai toujours cette communauté de personnes qui me ressemblent et qui me fait du bien, mais avec le temps, il y a des haters qui sont apparus, et du coup, je retrouve exactement les mêmes discours que je pouvais entendre avec mon entourage les premiers mois où je suis devenu papa. Aujourd'hui, ça me permet aussi d'avoir un côté un peu cathartique aussi pour les personnes qui me suivent, de voir en fait comment on peut répondre à ce genre de choses, comment on peut garder de l'autodérision aussi par rapport à tout ça, comment on peut apporter de la légèreté dans ces discours très anxiogènes et tout, parce que c'est aussi ça qui est important en fait, c'est de pas prendre les choses personnellement et que ça ne nous remette pas constamment en question toutes nos visions de la parentalité. Aujourd'hui, certes, il y a ces haters qui sont là presque toutes les semaines, mais malgré tout, c'est quand même très chouette et je suis content d'avoir cet espace-là qui me fait toujours du bien. Donc c'est très cool.
C'est ce qui nous avait rejoint, hein, bien sûr, sur Clubhouse, c'est qu'on avait une grande foi dans la possibilité d'éduquer nos enfants autrement, d'éduquer les élèves et les enfants en animation, hein, en périscolaire aussi autrement. Mais que c'était un peu avant-gardiste, que c'était encore très confrontant vis-à-vis de ce qui était en place dans le système, dans le mammouth. Et donc, on a eu plein de rooms où on débinait le comportement habituel de la hiérarchie de l'éducation nationale, l'immobilisme de certains décideurs qui n'étaient pas au contact des enfants et qui se rendaient pas compte de la maltraitance que c'était dans les faits, de la façon de leur parler, de la façon de les bousculer, de l'hérésie du rythme scolaire et du rythme périscolaire. Donc, on a échangé beaucoup autour de ça. Et le côté aussi héritage parental, qui nous rejoint hein, tous les deux aussi, d'avoir voulu traverser tout ce qu'on a vécu et en mettre du sens. Donc, on parle très souvent de ça avec les personnes qui parlent avec nous aussi sur Clubhouse, de faire de notre passé justement une marche et un levier pour comprendre pourquoi on en a souffert et pour comprendre comment faire autrement. Oui. Et en ça, on est sûrement modélisant pour ceux qui nous suivent dans nos communautés respectives, puisqu'on a trouvé des moyens différents d'ailleurs d'aller plus loin et surtout de s'exprimer. Parce que tout ce que tu partages dans tes réseaux sociaux, tout ce que je partage dans mon podcast, c'est une manière aussi de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti pendant des années et de fédérer ceux qui se sentiraient seuls mais qui penseraient un peu les mêmes choses que nous. Qui se diraient, mais en fait, il y a d'autres personnes qui ont réussi à trouver des méthodes, des outils, des techniques pour ne pas subir encore et propager la chaîne de violence éducative ordinaire, propager la façon de parler en domination, en soumission, en obéissance, dans tous ces termes-là qu'on va redéfinir tout au long de l'épisode. Donc, on était fait finalement pour se rencontrer sur ces sujets-là parce que on se serait pas croisés si on n'était pas allé sur Clubhouse. Et Clubhouse est un moyen d'échange entre personnes de bonne intelligence parce qu'on s'écoutait tous et on a eu hein, pendant des rooms des gens qui sont arrivés en posant des arguments qui ne correspondaient pas à nos pratiques mutuelles. Mais je pense qu'on a chacun des outils en écoute active, en communication non violente, en présence aussi et en curiosité. Moi, je te trouve toujours très curieux d'entendre pourquoi les autres en face de toi font ce qu'ils font et pensent ce qu'ils pensent. C'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup respecté, c'est que même si quelqu'un débarque dans tes commentaires ou dans une room, tu prends le temps quand même de te mettre sur sa colline et d'imaginer pouvoir mettre du sens sur ce qu'il dit par rapport à ce qu'il vit ou ressent et tout ça. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je suis pas au courant de tous les haters que tu as sur TikTok notamment, mais de temps en temps, tu nous partages ça en story. Donc si vous êtes curieux déjà, rajoutez Rémi Kinoko pour aller voir tout ce qui se passe en story. Parce que maintenant, tu panaches, hein, tu mets aussi les commentaires de gratitude, de reconnaissance, de satisfaction d'une communauté d'appartenance à l'éducation bienveillante, positive, empathique et tout ça. Et tu contrebalances avec tout ce que tu reçois comme ineptie, comme critique facile, comme jugement, comme non-réflexion en quelque sorte. On va dire que c'est des gens qui veulent pas aller plus loin et qui campent joyeusement sur leur colline sans imaginer qu'ailleurs, il se passe d'autres choses.
Ouais, et puis c'est un peu une réaction, souvent c'est des réactions épidermiques, parce que ce que je dis, bah, malgré moi, parce que c'est jamais le but, mais certaines personnes peuvent se sentir attaquées, et donc elles réagissent souvent dans l'excès, mais, mais elles réagissent.
Tu grattes sur leur connaissance et sur leur conviction. Tu vas gratter leur conviction. Bon, donc tu avais une vision de l'éducation qui était plutôt scolaire, périscolaire. Comment tu te voyais devenir père avant la naissance de Charlie?
En fait, j'y ai pas trop réfléchi avant la naissance de ma fille. J'avais pas une vision de ce que je ferais, comment je serais, etc. Ce qui est marrant, c'est que je dis souvent que j'ai l'impression de... Alors, dans les faits, c'est un peu ce qui s'est passé, mais je dis souvent que je suis né père. En fait, dès ma petite enfance, j'étais déjà plus ou moins un père, quoi. Parce que, effectivement, ce qui s'est vérifié au fil du temps, c'est que mes parents m'ont parentifié, comme on dit. Ils m'ont, entre guillemets, ça, je trouve que c'est un peu fort comme mot, mais ils m'ont utilisé comme troisième parent pour essayer de contenir mon petit frère qui était très énergique, beaucoup beaucoup d'énergie, très turbulent, et donc ils avaient beaucoup de mal en fait, et donc ils se sont dit il y a le grand frère, et voilà, et on va avoir un troisième pilier avec nous pour essayer
on va
de
le missionner comme
voilà.
Pilier éducatif.
Voilà, et donc naturellement aussi, parce que voilà, il y a ma mère notamment qui raconte toujours ce souvenir où à 5 ans, mon frère qui a quelques semaines, peut-être je crois qu'il avait 2 semaines, un truc comme ça, il se met à pleurer et je porte mon petit frère et je l'amène à ma mère en lui disant « il a faim !» Donc voilà, ma mère qui a essayé de garder son sang-froid au mieux possible pour ne pas me faire peur et que je le fasse tomber par surprise, ou voilà. Mais donc voilà, dès le début en fait, j'avais ce côté très protecteur et responsable en fait vis-à-vis d'un petit enfant et en l'occurrence mon petit frère. Et ensuite effectivement, comme mes parents m'ont missionné, comme tu dis, tout au long de mon enfance et de mon adolescence, ça s'est confirmé, ça s'est consolidé. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un rôle qui a toujours été un peu en moi. Est-ce que c'est ce qui fait que j'ai pas eu à m'imaginer un changement de rôle en pensant à l'arrivée de ma fille? En revanche, j'avais un peu une ambivalence de me dire de ce que j'avais vu de mes parents, de ce que j'avais vécu avec mon petit frère. J'avais l'ambivalence de me dire la parentalité, c'est très difficile. J'avais au moins ce sens des réalités, on va dire. Et en même temps, j'avais ce côté un peu complexe de supériorité à me dire c'est très difficile, mais pas dans le sens où je vais mieux faire, c'est sûr, je ferai mieux, tu vois. C'était pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens où moi, c'est un sujet qui m'intéresse, auquel je suis curieux, donc je vais m'instruire, je vais creuser, et donc je serai entre guillemets plus armé, je serai plus équipé. Que donc voilà, il y avait cette ambivalence de me dire c'est très difficile, mais en même temps je vais gérer. Quoi que l'enfant est arrivé, j'ai peut-être redescendu une case en me disant oui c'est très difficile, mais en plus d'être très difficile, c'est imprévisible presque. Enfin, c'est très compliqué de prévoir à l'avance ce qui va se passer. Et tout ce que tu as pu prévoir ne se réalise jamais réellement comme tu l'as prévu. Donc, bon, après, tu me diras, la vie en général est très imprévisible, mais je trouve que la parentalité, particulièrement. Donc,
les livres ne suffisent pas. Les informations
voilà.
ne suffisent pas.
Clairement.
Mais un homme averti en valait quand même deux. Tu savais
oui.
Pourquoi tu voulais le faire. Tu connaissais l'enjeu sur le long terme, j'ai l'impression aussi. D'éviter en fait de rajouter des casseroles à la vie de ta fille en coupant un peu les liens de la génération d'avant. Donc il y avait un pourquoi qui était fort. Donc
Oui, c'est ça.
peut-être que ça t'a donné de l'énergie et de la force pour être créatif et souple et flexible dans les solutions. Même si tu avais un panier énorme de solutions avant de devenir père, au moins tu savais où piocher, même si ça marche pas toujours du premier coup.
Oui, c'est ça.
Et
Et
ta place de papa par rapport à la maman, par rapport à votre lieu d'habitation, à votre métier, tu l'as équilibré dès les 2, 3 premiers mois ou vraiment ça se construit encore à l'heure actuelle?
oui, je pense que ça va se construire tout au long de notre vie parce que l'enfance, il change tellement. Alors au début, ça change tellement de mois en mois. Après, bon, ça s'élargit un peu et c'est d'année en année que ça évolue. Mais ouais, l'enfant, il change tellement régulièrement qu'en fait, à chaque changement, alors bien sûr, il y a des petits détails, mais parfois, il y a des changements qui sont très importants. Et du coup, chaque gros changement implique de tout, enfin, peut-être pas tout remettre en question, mais en tout cas, de revoir certaines choses pour que ça fonctionne de nouveau. Donc ouais, je pense qu'on construira toujours tout au long de notre vie. Et naturellement, effectivement, j'ai l'impression que les choses se sont mises en place. D'une part parce que aussi, pendant la grossesse, on a eu des désaccords, des soucis de communication. On n'était pas bien accompagnés, en fait. Enfin, et c'est ce qu'on a constaté ensuite, qu'on a bien vu les remarques de l'entourage, évidemment. Alors, c'est bizarre, ça. Je ne sais pas pourquoi on l'a pas anticipé, alors que on connaissait nos parents, on connaissait nos proches. On aurait pu s'attendre à ce que ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que, je sais pas, je m'attendais pas à autant de réactions anxiogènes. Mais du coup, pendant la grossesse, c'était déjà un peu compliqué, et surtout pour Julie, parce que autant je m'intéressais beaucoup au développement de l'enfant, autant les nourrissons, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, j'avais énormément de questions, et des questions auxquelles on ne me répondait pas, et notamment par rapport à l'allaitement. Et le souci, c'est que c'est bien de poser d'avoir des questions et de les poser, mais le souci, c'est que quand tu es entouré de personnes qui sont très sûres d'elles, qui sont pleines de certitudes, elles vont te donner des réponses qui sont pas qui sont pas constructives, en fait. Et le souci, c'est que les personnes qui sont pleines de certitudes, parfois, enfin, quand toi, tu es vraiment en position de rien savoir, bah, parfois, tu as envie de donner ta confiance, presque tu as sa naïveté même de pas remettre en question la parole qu'on va te dire. Et notamment pour l'allaitement, c'est le sujet de cet épisode, la place du père. Et avec l'allaitement, j'avais peur de pas réussir à avoir une place suffisante, alors que ça me tenait énormément à cœur, justement, de ne pas être ce père absent qui est là juste pour avec son enfant, et puis pour le reste, il n'est pas là.
Quand il est
Donc
un peu plus grand, en plus l'enfant, quand il est un peu
voilà, en plus,
intéressant, il y
voilà.
a encore ce cliché qu'un nourrisson n'interagit pas, il n'y a pas beaucoup de liens, alors que dès la maternité, il y a des liens qui se créent déjà avec le papa.
C'est ça. Mais justement, la croyance que le nourrisson, tu peux pas interagir avec lui, c'était une des sources de mes peurs, puisque je me disais avec l'allaitement, enfin, dans ma tête, le moment nourricier, c'était une des rares interactions qu'on pouvait avoir avec le nourrisson. Et donc, je me disais, l'allaitement, j'ai rien contre, tu vois, c'est pas comme si je voulais absolument pas que ma femme allaite, mais j'avais peur que, du coup, je n'ai aucune interaction avec mon nourrisson, parce que dans ma tête, qui est complètement stupide, mais dans ma tête, c'était un bébé, ça mange, ça dort, et puis tu le changes, tu le laves. Mais voilà quoi, c'est les 3 moments de vie au quotidien du bébé. Et je m'étais dit, bah, du coup, si je peux pas le nourrir, si à aucun moment je peux le nourrir et qu'il me reste juste le change de couche, le laver, le reste du temps, il dort.
Ça faisait pas rêver là d'emblée sur le
Ben,
scénario.
au-delà de ne pas les rêver, c'est que je me disais, mais comment je vais construire le lien? Et le truc, c'est que l'entourage, à ce moment-là, me disait, ah oui. Du coup, c'est très important que, même si elle fait l'allaitement, il faudra qu'elle te laisse faire des biberons de temps en temps, parce que sinon... Enfin, du coup, ça a appuyé ma crainte.
Oui, ils ont renforcé l'idée que
Voilà.
tu allais mettre de la distance si tu ne le nourrissais pas du tout.
Ouais, voilà. Donc il y a eu cette opposition qui s'est faite avec ma femme qui, elle, s'était beaucoup renseignée autour de la Leche League et tout ça, et qui déconseillait de... C'est un sujet un peu clivant, et je crois qu'il n'y a pas de réel consensus sur la question de la fameuse confusion Saint-Étienne. Il y a des gens qui disent qu'effectivement, un bébé, si tu fais allaitement plus biberon, il peut avoir après des soucis d'allaitement. Il y en a d'autres qui disent que non, ça n'a rien à voir. Dans tous les cas, à ce moment-là, Julie, elle avait vu ça et du coup, ça l'avait inquiétée. Elle s'était dit, mais on ne pourra pas introduire de biberon, sinon on va avoir des difficultés. Donc, il y avait cette opposition.
Clairement, sur les forums Facebook de l'époque, dès que je posais une question sur l'allaitement, je me prenais une tapée de commentaires sur quoi, mais ça va pas, mais tu vas faire une confusion Saint-Étienne.
Ouais.
Ça me rappelle de très bons souvenirs parce que vraiment, les filles, elles connaissaient pas mon âge, mon expérience et mon pédigré. Mais tout de suite, elles avaient vu depuis leur œil de lynx que j'allais faire quelque chose de grave et d'y réfléchir. Donc, merci pour votre écoute à toutes celles qui laissent des commentaires sur les groupes Facebook sans lire la question initiale. Donc, cette crainte de pas trouver ta place à l'arrivée, la naissance et puis la mise en place de l'allaitement, comment tu l'as résorbé cette distance?
En fait, on a eu de grosses difficultés avec l'allaitement et je pense, est-ce que c'était un bien, un mal pour un bien peut-être, dans tous les cas, ça a permis de résorber cette opposition-là parce que, étant donné que l'allaitement était très très compliqué, Julie, elle avait une candidose, donc au moment de la mise au sein, elle avait très très mal. Et on nous avait très mal conseillé à la maternité sur le positionnement et tout. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, elle a commencé à avoir en plus, par-dessus la candidose, des crevasses et tout. En plus, au début, c'est terrible, on en rigolait ensemble, tu vois. Et je me souviens qu'on avait pris une photo parce que Charlie, elle s'était après une tétée, elle avait plein de sang autour de la bouche. Et on a pris une photo en se disant, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. C'est
Souvenir,
hyper
souvenir de
drôle.
l'allaitement.
Alors qu'en fait, non, c'est pas drôle du tout, quoi. Et en fait, ouais, après, on a vu une conseillère en lactation qui nous a sauvés, pour le coup. Mais tout ce moment de flottement très difficile, bah, j'ai dû être hyper soutenant par rapport à Julie pour l'accompagner dans cette frustration de pas réussir à avoir un allaitement serein, sans douleur, etc. Donc, en fait, j'étais tout le temps avec elle à essayer de, enfin, vraiment, on vivait ces moments ensemble presque tout le temps.
Ouais, vous faisiez bloc pour persévérer sur l'allaitement comme
Voilà.
projet à maintenir.
Et du coup, ça m'a permis de vraiment m'investir sur l'allaitement, malgré les oppositions de l'entourage. Et puis d'être vraiment là, en fait, pendant ces moments d'allaitement, je voyais que même si c'est pas moi qui donnais le sein, d'être en proximité avec ma femme et ma fille à ce moment-là, je pouvais caresser ma fille en même temps qu'elle était en train de téter. Parfois, elle me regardait pendant qu'elle était en train de prendre le sein. Donc, en fait, il y avait quand même des interactions, même si c'est pas moi qui donne le sein. Et donc là, je me suis rendu compte que non, un nourrisson, c'est pas juste ça mange, ça dort, et puis il faut changer la couche. Puis voilà, en dehors de l'allaitement, évidemment, je me suis rendu compte que non, un bébé, ça passe pas son temps à dormir. Plein de moments où tu peux interagir avec, et c'est super. Donc cette difficulté d'allaitement, elle a été à un point où ça m'avait énormément stressé, parce que le point de rupture juste avant qu'on voit la conseillère en lactation, Julie n'arrivait même plus à donner le sein tellement qu'elle avait mal. Et donc pendant une nuit et une matinée, ma fille n'a pas pu manger, en fait. Donc là, je me suis senti en détresse, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, parce que dans ma tête, si on trouvait pas une solution tout de suite, ma fille allait finir par mourir déshydratée et tout. C'était vraiment horrible. Et je pense que, voilà, souvent on dit que dans des moments très douloureux, soit on consolide la relation, soit ça l'effrite. Et là, pour le coup, ça nous a énormément consolidé. Tout de suite, on a pu avoir cette conseillère en lactation qui nous a sauvés. Et après, ça n'a même plus été du tout une pensée de me dire qu'à cause de l'allaitement, je pourrais pas créer un lien, quoi. Là, en fait, d'être dans la pratique du truc tout de suite, ça m'a retiré tous les doutes. Mais c'est vrai que quand on est mal entouré et que on ne peut que écouter les personnes qui ont des certitudes absolues,
Et ça vous a
c'est compliqué.
rapproché sur ce premier sujet déjà.
Ouais.
Ça vous a créé une bulle en disant, on va être les experts de demander à des vrais experts. On va
Ouais.
peut-être arrêter de demander des conseils à des gens qui ne connaissent pas du tout leur sujet.
C'est clair. C'est
A
clair.
trié le premier cercle, ça a
Oui.
trié les conseils non sollicités.
C'est ça. Comme ma femme était très fatiguée, ben, comme la plupart des femmes après les premières semaines de postpartum, ça me tenait à cœur d'essayer de faire le maximum pour qu'elle puisse récupérer. Donc, dès qu'elle pouvait dormir, moi, je prenais ma fille en écharpe et puis on quittait l'appartement, on partait en balade pendant 1 heure ou 2. Comme ça, elle pouvait vraiment bien se reposer. J'ai porté ma fille en écharpe, mais presque des après-midi entières. Et ça, c'est pareil, quoi. C'est autant d'occasions de créer du lien avec son enfant en tant que coparent. C'est seulement en le pratiquant, et c'est ça le souci, c'est que quand t'as jamais eu d'enfant, tu t'en rends pas forcément compte, mais quand tu es vraiment dans le truc et que tu le pratiques, tu te rends compte, en fait, de toutes ces occasions que tu as de créer du lien, même si c'est pas toi qui a enfanté l'enfant, qui donne le sein.
Oh, tu as participé quand même, un
Oui.
gros morceau. Donc, il y a eu la question de l'allaitement. Est-ce qu'il y a eu d'autres points sur les choix éducatifs à faire à vous deux en tant que couple, où il y a eu négociation, prise d'information,
Ouais.
doute?
Alors c'est pareil, tu vois, c'est marrant parce que c'est toujours en fait les oppositions qu'on a eues et les prises de tête entre guillemets qu'on a eues, c'était toujours en fait avant la naissance de notre fille et notamment au sujet de l'instruction en famille. Bon, on s'y prenait beaucoup à l'avance, hein, pour le coup, parce que bon, c'est
avant
pas,
l'allaitement même.
c'est pas l'urgence quand ils naissent. Mais du coup, pendant la grossesse, on en a discuté et Julie était pas d'accord à ce moment-là parce que elle avait des très bons souvenirs d'école. Je pense qu'elle avait l'impression qu'on allait enlever quelque chose à Charlie si on ne la mettait pas à l'école. Alors qu'en fait, c'est, bah, chacun a son vécu et ses expériences et, bah, si elle les a pas vécues, on peut pas lui enlever quelque chose qu'elle n'a pas encore vécu. Mais je comprends que voilà, quand on a vécu quelque chose de positif, on a envie que son enfant vive aussi cette expérience positive-là. Mais c'est vrai que par rapport à
bon,
l'école, c'est quand même la roulette
ne projetait pas la même expérience ni l'un ni l'autre. Quand vous disiez
oui.
elle ira à l'école, soit ça te crispait parce qu'il y avait tout le dossier du vécu
Ouais.
négatif, alors qu'elle, aller à l'école, c'était découverte, groupe, copine, maîtresse et tout. Elle avait d'autres souvenirs que ça évoquait, alors que toi, aller à l'école égale risque, danger,
Ouais.
doute, éloignement, distance.
Totalement.
Chacun arrivait avec sa petite valise de souvenirs concernant
C'est
l'école.
ça.
Et ça
Donc,
évolue comment pour décider de faire l'IEF? Parce que on va teaser ceux qui vous connaissent pas. Vous êtes bien en IEF pour
oui,
l'instant.
alors voilà.
Ça
Donc, on
passe.
a fait pour sa première année de petite section de maternelle, l'entourage rajoutait des couches. Et là, pour le coup, bah, Julie s'était retrouvée un peu seule par rapport à l'allaitement. Là, c'est moi qui me suis retrouvé un peu seul par rapport à l'IEF. Et ça allait loin, on nous disait, mais tu sais, il y a des enfants en Turquie qui vivent l'instruction en famille pendant toute leur enfance, et puis quand ils arrivent au lycée pour aller à l'école, ils se suicident. Donc, des trucs très
Elle est exemple
violents.
appropriée.
Voilà, et puis enfin des raccourcis incroyables, enfin pour me dire ce que tu vas faire, ça va mener ta fille à sa mort. Bien sûr.
Malheureusement, il y a plein d'élèves aussi qui font une grande scolarité en établissement scolaire et qui ne disent rien à personne sur leur souffrance d'établissement, de harcèlement ou de ridicule interne et qui eux-mêmes aussi se donnent la mort pour des raisons complètement inverses.
Oui. Donc c'est pas l'école ou l'instruction en famille qui fait qu'on va préserver notre enfant du suicide. Enfin, c'est un sujet tellement plus complexe que ça. On peut pas le résumer à ça. Quand tu dis à quelqu'un, moi j'aimerais faire l'instruction en famille parce que laisser mon enfant 8 heures à l'école, ben je trouve ça dommage. J'aimerais passer ce temps-là avec mon enfant plutôt qu'il le passe à l'école. Quand tu expliques que c'est pour respecter son rythme, etc. Ben en fait on t'entend pas. Tout ce qu'on te dit c'est oui, mais la sociabilisation, oui. Ça va faire quelqu'un qui ne sera pas intégré dans la société. Enfin, voilà. Au lieu de réfléchir aux raisons qui te poussent à faire l'instruction en famille et de discuter de ces sujets-là, tout de suite, on te dit mais.
On déroule la liste d'arguments classiques anti-IEF,
Voilà.
puisque pour eux, ça se tient. Hein. C'est les pros et les contres. Dans tous les combats, il y a des listes d'arguments, mais ils ne faisaient pas spécialement l'effort d'entendre qui se cachait derrière ta
Oui.
demande d'IEF. Et eux-mêmes ne voyaient pas que c'était leur peur à eux pour
Non.
l'avenir de leur petite fille, de leur nièce et tout ça, qui jouaient. Donc
Puis,
eux-mêmes, ils projetaient sur des trucs qui n'arriveront sans doute pas.
oui, voilà, c'est ça, on peut pas l'anticiper. En fait, c'est comme si, surtout, les points que je donne, ça ne les intéresse même pas, parce que c'est pas un sujet de discussion. Quand je leur explique, voilà, je veux respecter le rythme de mon enfant, il n'y a pas de question qui arrive ensuite. Ou dire oui, mais à l'école aussi, on peut respecter le rythme, tu vois, je sais pas, rester dans le sujet. Tout de suite, on va te trouver un point négatif pour te dire non, il faut pas que tu le fasses. Donc c'est vrai que pendant la grossesse, il y a eu cette opposition bien appuyée par l'entourage. À force de vivre sa maternité, à force de créer ce lien avec sa fille, peut-être qu'elle s'est rendue compte des enjeux en fait autour du rythme et autour du fait de vivre un maximum de moments avec son enfant. Et c'est devenu plus clair. Et donc ça n'a même plus été une discussion. Et ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est que moi, quand j'ai des doutes, parce que du coup, avec cette première année d'IEF, c'est là où on se rend compte que c'est quand même plus nuancé que le camp des pour et des contre, et que c'est un sujet plein de nuances. Avec cette première année d'IEF, je me suis retrouvé avec des doutes parce que j'avais toujours dit que quand ma fille me dira je veux aller à l'école, je n'irai pas à l'encontre de son souhait. Et le truc, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ce que dès la première année d'IEF, elles me disent, je veux aller à l'école.
Ah ouais, c'est quand l'école, papa?
Voilà. Et d'ailleurs, l'entourage m'avait toujours dit, oui, c'est bien beau de dire, quand elle te demandera, tu la laisseras y aller. Mais si elle ne va jamais à l'école, elle aura jamais envie d'y aller. Bah oui. Tellement que la première année, elle me dit déjà qu'elle veut aller à l'école. Donc.
Notons qu'à cet âge-là, tout ce qui est nouveau peut être un côté excitant et que ça
Exactement.
retombe au bout d'une semaine pour tous les enfants qui font la rentrée en petite section.
Voilà.
Et finalement, au bout d'une semaine, ils disent, non, c'est bon, je connais l'école, maintenant, je veux plus y
Oui.
aller.
C'est ce qu'on me raconte souvent d'ailleurs. Des parents qui ont des difficultés avec leur enfant qui ne va plus aller à l'école, ou dès les premiers jours, ça se passait super. Et puis après, bon, ils ont eu leur dose et c'est bon, quoi.
Finalement, il y a plus de contraintes que d'avantages, on serait mieux à la maison.
Mais du coup, oui, quand elle m'a dit qu'elle voulait y aller, bah, je me suis énormément remis en question. Et même encore aujourd'hui, il y a des moments où je me remets en question. Mais ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est Julie qui me dit non, non, on lâche rien et on continue. Donc c'est chouette d'avoir ce soutien qui a pu se construire, alors qu'au départ, c'était un sujet d'opposition. C'est surprenant, j'aurais pas pu envisager que ce soit moi qui remette le truc hors doute et que ce soit ma femme qui me dise non, non, mais on continue l'IUF.
Et puis tout ça va évoluer, ça va être un feuilleton parce que il y a
Oui.
l'autorisation, il y a la sectorisation, il y a l'inscription, la visite, il y a aussi Charlie qui va peut-être évoluer dans son idée, et toi aussi, donc rien n'est sûr pour l'année d'après.
C'est ça. De toute façon, là, dans le contexte actuel, chaque année, on ne sait pas. Donc,
Oui, et puis ça s'assouplit pas beaucoup non plus, hein.
non.
Visiblement, ils sont pas très portés sur la réouverture de l'IEF un peu à tous les gens qui le demanderaient. C'est vraiment, on note pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce dossier qu'il faut une argumentation, une lettre de motivation, des bonnes raisons
Un
expliquées,
projet pédagogique.
et qu'il y a un contrôle annuel de l'éducation nationale pour vérifier les compétences de l'enfant qui est instruit en famille.
Et malgré un contrôle favorable, il faut quand même une demande d'autorisation pour l'année suivante. C'est
Oui, au cas
super.
où ça change en plus, hein, dans la hiérarchie et l'inspection, là, ils sont bien sûrs qu'ils vous ont vu. Il y a un côté administratif qui est quand même épique dans
Ah,
l'éducation
très agréable.
nationale. Ça, on l'a vécu tous les deux. On pourrait vous en parler pendant des heures et des heures. Bon, sur ces 4 dernières années, alors quelles sont les plus grandes leçons que tu tires de ton rôle de père? Est-ce qu'il y a eu des points vraiment où tu t'es dit, waouh, être père là dans cette situation, je l'avais pas vu venir, comment c'est compliqué, remuant, chamboulant ou merveilleux, dans le sens que tu veux? Les petites paillettes, les petites pépites dans ces 4 ans de ton rôle de père.
Je m'attendais pas à ce que la parentalité apporte autant de peur. Autant que je t'avais dit, voilà, que je savais que c'était difficile, que je me pensais bien équipé et tout. Mais autant tout ce qui était lié à la peur, c'est bizarre parce que autant on pourrait se dire, oui, quand on a un enfant, ça devient une des personnes qu'on a le plus au monde. Et donc effectivement, quand on est très attaché à quelqu'un, on peut facilement avoir peur pour cette personne. Mais je sais pas, ça m'était pas venu à l'esprit de me dire que j'aurais autant de peur. Ça a été un grand sujet qui revenait sur Clubhouse aussi, hein, les angoisses parentales.
Sont proportionnelles à l'attachement que tu as pour ta fille,
Oui.
effectivement. Souvent, on dit, comme on ne pourra pas les protéger de tout, tout le temps, il va falloir admettre que nos peurs sont là, légitimes, mais qu'on ne pourra pas être là pour toutes les situations qu'elle va vivre. Et même si on les aime, et même si on voudrait qu'il leur arrive rien de difficile, de mal, d'anxiogène, qu'elle fasse que des belles rencontres, on est impuissant. Et
C'est
du coup,
clair.
cette peur, c'est terrible, mais on vit avec. Chaque parent vit avec cette peur de ne pas pouvoir subvenir à l'aide de son enfant 24/24, 7 sur 7, jusqu'à sa propre mort, quoi. Non, on peut pas. On pourra pas.
Ouais, faut accepter sa propre impuissance, quoi. C'est ça qui est. Est-ce que c'est le destin? Mais chaque année, le destin me confronte à un truc pour me dire, regarde. Tu as très peur qu'il se passe des trucs à ta fille. Ben, il se passe des trucs qui sont pas agréables.
Et tu dépasses ça.
Voilà, c'est ça. Ça me permet de me rendre compte que bon, je veux pas qu'elle se blesse. Ben, chaque année, elle se blesse. Et ça me permet de me rendre compte que même si elle se blesse, ça va. Enfin, ça va. En tout cas, on fait avec et on est toujours là et ça se passe.
Et
Ouais,
au moment
c'est.
donné, tu trouves des ressources que tu n'avais pas imaginé avoir forcément, parce que l'imagination est tellement scénarii d'arborescence, en fait. Quand on s'inquiète sur tout, alors que quand la situation arrive, c'est du concret, c'est du
Oui.
factuel. Et là, tout de suite, on met en place stratégie A, non, stratégie B, non, stratégie C, on va prendre celle-là. En fait, je pense que dans l'urgence, les gens qui ont été élevés avec une hypervigilance sont très, très utile et concret et factuel.
Oui.
Alors que les gens qui ont été élevés dans oui, tout va bien, ben dans l'urgence, ils réagissent pas aussi vite que nous.
C'est marrant parce que je pense que j'ai plus de peur que Julie, enfin, sur le fait d'être parent, etc. Il y a notamment ces phobies d'impulsion que j'ai encore aujourd'hui, peut-être que j'aurai tout le temps, j'en sais rien, et qu'elle n'a pas. Et pour autant, c'est vrai que quand les accidents arrivent, je suis toujours dans, enfin, immédiatement, je suis dans l'action, comme tu dis, hein, je réagis tout de suite, très rapidement. Et Julie, elle me dit souvent qu'elle, elle est plus dans la sidération.
Ouais.
Elle est paralysée, en fait. Alors que sur le fond, tout au long de l'année, elle est beaucoup moins dans l'anxiété que moi. Moi, je suis tout le temps dans l'anxiété. Mais quand les trucs arrivent, j'agis directement et alors autant quand elle tombe et tout, je fais attention de pas me jeter sur elle et tout pour ne pas lui faire peur parce qu'on sait on sait que c'est pas ça sert à rien et que ça accentue la problématique plutôt que de la réduire. Mais et puis de toute façon en fait quand tu te rends compte tu réagis pas et que l'enfant en fait il se relève et puis tout va bien bon ben ça te rassure dans cette posture. Mais sinon, en fait, quand elle se fait vraiment mal et qu'elle pleure et tout ça, tout de suite, en fait, je pose 10 000 questions et je sais que ça sert à rien aussi. Parce que de toute façon, elle est pas dans un état où elle peut vraiment réfléchir au truc et à m'expliquer vraiment. Et du coup, en fait, ça m'énerve, en fait, parce qu'elle n'arrive pas à me dire ce qui s'est passé. En fait, en vérité, si je sais exactement ce qui s'est passé, ça va pas me soulager. Ça sert absolument à rien que je l'assomme de mes questions à lui dire, mais comment tu t'es fait mal? Où est-ce que t'as mal précisément? Et comment? Et nani? Et nana?
Et c'est pour trouver le bon embranchement dans ton arbre à choix.
Ouais. Ouais, mais tu vois, par exemple, si je vois qu'elle est tombée sur sa jambe, bah, l'occurrence, à l'accident de trampoline, parlons-en. Du coup, que ça s'est terminé en deux fractures, mais tout de suite, j'ai compris qu'elle avait mal au pied. Tout de suite, je me suis dit, il faut que je la glace. Et voilà, ça va la soulager un peu. Et je sais qu'il y a un an en arrière, tout de suite, je lui aurais dit, mais comment tu t'es fait ça? T'es tombé comment? À quel endroit? Ton pied, il a tourné ou pas? Enfin, ça servait à rien, toutes ces précisions. Parce que dans tous les cas, je sais qu'il faut que je mette de la glace. Et même si, une fois qu'on aura calmé un peu la douleur et tout ça, peut-être qu'on pourrait avoir cette discussion pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Mais dans l'immédiat, c'est pas utile d'avoir toutes les informations
Le
de
script,
l'accident.
on verra le script plus tard. Là, c'était l'urgence,
Mais
l'intervention.
après, peut-être que c'est un moyen de se déconnecter de l'émotion aussi. Tout de suite, essayer d'avoir l'histoire précisément. Tu vois, c'est un moyen de fuir peut-être l'émotion qu'on a sur le moment. Du coup, ouais, je me rends compte que j'arrive un peu à faire ce travail aujourd'hui, mais c'est vrai que.
Moi, j'ai l'impression qu'en classe, je faisais ça pour que l'enfant voie que mon timbre de voix et ma rythmique n'avaient pas changé de quand c'est pas dangereux.
Ouais.
Donc, quand j'intervenais sur une grosse blessure ou sur quelque chose de très dangereux, je gardais la même voix de maîtresse pour qu'il essaye de se dire, bon, ça n'a pas l'air si grave, elle garde sa voix d'habitude. Par contre, intérieurement, ça cognait parce que intérieurement, je savais le risque, le danger, le risque de suraccident et tout ce qu'on a vu en prévention. Quand on a fait des initiations au secourisme et tout, tout ça te revient en mémoire quand tu es chargé d'un enfant, que ce soit le tien ou ton élève. Et le fait de parler à l'enfant, pas comme si de rien n'était, hein, mais en ne montrant pas que toi, tu es contaminé par son émotion ou par la peur ou par le danger, ça me paraît utile pour lui, pour pas l'inquiéter plus. Et pendant que je parle, du coup, ça m'évite de trop avoir peur en supplément. Et d'imaginer, oh, mais qu'est-ce qui va se passer si je fais pas ça? Parce que comme je suis en train de parler et de penser à ce que je parle, ça coupe un peu le fil de pensée en continu. Enfin, moi, je me le suis raconté comme ça et que maintenant je parle à la petite quand il y a un danger. J'essaye de canaliser mes pensées et ne pas lui montrer que ça pourrait être encore pire. Maintenant, c'est des stratégies qui peuvent convenir à certains et pas à d'autres. Mais pour ceux qui réfléchissent trop, pour ceux qui sont très anxieux, ça peut être une piste de continuer à parler, parce que pendant qu'on parle, il y a peut-être un peu moins de nœuds qui se créent en arrière-fond.
C'est ça. Parler sans effectivement essayer forcément d'avoir les réponses à toutes nos questions tout de suite dans l'immédiat.
C'est une manière de garder le lien, en fait,
Ouais.
quand on parle. On garde le lien en se disant, je suis là pour toi. C'est une qualité de présence aussi. Donc, il y a eu cette leçon-là sur les peurs. Qu'est-ce que tu as appris encore en 4 ans sur ton rôle de père?
Et sinon, ouais, la plus grande leçon, je crois que ça revenait souvent aussi dans les Room Clubhouse, c'était le fameux mantra, ça aussi, ça passera. Alors ça. Quand elle avait 2 ans sur Clubhouse, j'en parlais déjà et je pense qu'aujourd'hui encore, c'est sûrement la plus grande leçon, ouais, parce que ça fait relativiser énormément de se dire ça. Alors autant dans des moments très compliqués, c'est bien beau de se dire. Dans les moments où on n'a pas dormi depuis des mois, c'est bien beau de se dire ça aussi, ça passe. C'est pas ça qui va ramener l'énergie, c'est pas ça qui va ramener le sommeil, mais après coup, ça peut quand même faire du bien de se le dire, de s'en rendre compte. Et après pour les plus petits trucs, effectivement, notamment en fait. Tous les moments de crise, de grosse crise d'émotion, où tu pourrais péter un câble. C'est presque une technique de respiration, tu vois, de te rappeler ce mantra, de te dire ça aussi, ça passera. Ça peut faire du bien. Parce que c'est vrai que dans le moment, sans, si on ne dézoome pas, on peut se dire que c'est un truc terrible. Que... Comment c'est possible que mon enfant est en train de réagir comme ça, en train de crier partout. Alors qu'en fait, bon, si tu le regardes à l'échelle de même ne serait-ce que ta semaine, c'est pas dramatique.
C'est disproportionné par rapport à notre vision du
Oui.
comportement de l'enfant.
C'est ça.
Et comme rationnellement, on voudrait quand même lui faire comprendre que c'est disproportionné, enfin. Mais pourquoi tu te mets dans cet état-là? Donc, tu as ce petit mantra qui te vient en disant « C'est normal, ça va passer.
C'est ça.
Je vais y arriver. On va
Ça
respirer. »
te permet de mettre à l'échelle aussi, parce qu'en fait, si tu as des réactions trop toi-même disproportionnées, du coup, ça peut avoir des conséquences qui, elles, seront plus longues que la crise en elle-même. Donc, c'est pour ça que c'est bien de se remettre sur les bonnes échelles. Ce serait dommage.
Ne pas en rajouter
Voilà.
de moyens de confrontation et de se dire, oula, mais mon parent, il sait même pas du tout se canaliser lui-même, là.
Oui. Bah moi j'ai souvent le voilà l'image de ma mère qui avant qu'elle fasse sa thérapie pour gérer ses propres colères justement quand il y avait des très grosses difficultés avec mon frère et moi ça arrivait à des moments de frénésie où elle prenait toutes les assiettes et elle les jetait contre les murs et tout et quand tu vois ça tu te dis mais il y a un démon qui propose l'option de ma mère
Quelque chose
qu'est-ce
s'est
que
emparé d'elle.
c'est terrible
Et
donc
tu vois à quel
effectivement
point elle pouvait tellement pas gérer sa propre émotion
ouais.
qu'elle a été incapable d'observer que votre émotion était normale, légitime,
Oui.
utile et qu'elle avait une information à lui donner à elle et même vous la transmettre cette information. Que la part d'éducation qu'on fait en éducation émotionnelle, c'est quand même de dire à l'enfant, t'as complètement le droit d'être en colère. Moi
Et
aussi,
moi
j'ai
aussi.
complètement le droit d'être en colère. Par contre, quand on est tous les deux en colère, on trouve une stratégie chacun pour pas se reprocher mutuellement la colère dans laquelle on est et
À
pas s'enflammer.
exploser la maison.
Mais ouais.
Oui.
Donc,
Puis
dans
du
ces
coup.
cas-là, tu as ton mantra. Tu parlais
Ouais.
de respiration aussi. Qu'est-ce que tu as mis
Oui.
en place quand il y a vraiment des débordements émotionnels, les tiens ou ceux de ta fille ou tous les trois même des fois?
En fait, c'est marrant, mais les outils que j'ai pu donner à ma fille, notamment la respiration, en fait, moi, ça me fait bien rire sur les réseaux, les gens qui disent, quand ton enfant est en colère, tu fais ça. Et c'est bon.
Yaka, yaka.
Voilà. Comme tu disais, tu as plein de solutions dans ton panier, tu prends celle que tu peux, et puis tu vois si ça marche ou pas, et puis tu essayes une autre jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais les outils que j'ai pu donner à ma fille, et notamment la respiration, quand je vois qu'elle a une crise émotionnelle, une crise de colère, qui a du mal à passer, il y a cet exercice de respiration que je lui propose souvent, et ça arrive souvent aussi qu'elle refuse de le faire, donc ça ne marche pas, mais quand elle accepte de le faire, souvent, ça fonctionne bien. Quand elle est proactive, en fait, dans le truc, et que c'est pas juste... Je te dis de faire ça, fais-le, et ça ira mieux. Mais quand elle fait le choix de faire cet exercice de respiration, souvent, ça la calme assez vite. Et d'avoir partagé cet exercice de respiration avec elle, ben, je le fais aussi pour moi, en fait. Donc, ça...
C'est que tous les auditeurs disent, bon, il va nous l'expliquer ou pas? Est-ce qu'il va nous l'expliquer? Vas-y, explique-le-nous, s'il te plaît.
C'est juste des respirations longues, classiques, hein. Donc, juste, on prend des longues inspirations par le nez. On fait en deux ou trois secondes. Enfin, ça dépend de la capacité pulmonaire de chacun. Voilà, donc, on prend des longues inspirations par le nez. Et puis, quand son ventre est bien rempli, après, on expire par la bouche jusqu'à ce qu'on se soit bien vidé de son air. Puis, on fait ça trois ou quatre fois.
Donc, il n'y a même pas besoin de support, tu peux le faire
Non.
n'importe où, là. Tu ne prends pas
Voilà.
un outil, quelque chose de visuel.
Ouais, après, tu as la fameuse cohérence cardiaque où là, on peut suivre... comme un mouvement de vague où quand la courbe monte, tu inspires, quand la courbe descend, tu expires. Pour les personnes qui sont plus visuelles, c'est vrai que je pense que ça peut aider encore plus. J'ai pas essayé ça avec ma fille parce que j'ai l'impression que souvent quand ma fille est en colère, fait des crises de colère comme ça, c'est quand elle est surstimulée. Et donc si je lui rajoute, alors, si je lui dis des trucs qu'il faut qu'elle m'écoute pour faire un exercice, mais qu'en plus je lui rajoute un truc à regarder. Je pense que c'est lui rajouter de la stimulation sur de la surstimulation. Donc je suis pas sûr que ça soit super super efficace.
L'outil qu'on a tous, c'est de mettre la main l'un contre l'autre, donc de mettre ta main sur sa main et en fait vous inspirez en montant le long du doigt et puis vous expirez en redescendant le long du doigt. Pareil avec le deuxième doigt. Bon, là, on est en podcast, donc les gens ne nous voient pas. Mais je pense que vous imaginez bien, à chaque doigt, en fait, ça marque la longueur de l'inspiration. Et comme en plus l'œil est concentré sur la main du parent et de l'enfant, quelque part en arrière-tâche, la crise est en train de redescendre parce que l'esprit est concentré sur la main et en plus sur la respiration. Donc ça fait deux points de concentration qui éloignent. C'est pas tout résolu, hein, bien sûr, mais c'est un moyen de décanter un tout petit peu le point névralgique de la flamme ultime de « oulala, on va pas s'en sortir sans lancer une assiette contre la porte ».
Voilà, ça, revenir sur un seuil où la discussion est possible, parce que avant ça,
Dire que
c'est...
c'est normal, en fait, qu'elle se sente comme ça aussi.
Oui.
Elle
Bah
a tout
déjà,
à fait
nous-mêmes, on
droit.
se rend bien compte qu'il y a des moments où on est tellement en colère qu'on ne peut pas discuter. Donc,
Voilà.
si
On
même
va
en
pas
tant qu'adulte, on ressent
rationaliser
ces
avec
moments...
un enfant de moins de 7 ans, on va pas le rationaliser sur...
Voilà. Donc, il y a ces fameux exercices de respiration, et il y a aussi le coup du verre d'eau. Encore une fois, quand elle accepte de le prendre, ça fonctionne bien. Et pareil, c'est un truc que j'applique aussi sur moi. Du coup, en fait, bizarrement, tout ce que j'ai pu lui proposer, je l'applique aussi sur moi et je me rends compte que ça peut aussi me faire du bien. Donc, prendre un grand verre d'eau, et c'est encore mieux, je pense, parce que ça permet de diminuer un peu la température. Souvent, quand on est en colère, on s'échauffe. Donc, ça peut être bien. Et puis, sinon, vraiment, le truc, que je fais presque à chaque fois quand il n'y a plus rien qui marche ou même systématiquement, c'est d'aller dehors, en fait, d'aller
Dans
dehors,
cette
de prendre
pièce.
l'air. Ça désamorce assez vite les choses. Alors souvent, elle refuse. Elle veut vraiment pas y aller hein, quand c'est dans le cas où la colère est trop grande et que toutes les solutions n'ont pas marché. Quand je dis bon, ben, on va aller dehors, on va prendre l'air, elle a pas envie. Donc évidemment, ben, je la prends, on y va ensemble et puis soit on se pose dehors et on laisse la colère se décanter, soit on part marcher. Moi, la marche, ça m'a toujours fait du bien et du coup, je le fais aussi pour moi en fait. Quand je sens que j'ai plus trop d'énergie, quand mon niveau de patience est trop descendu, et que là je me rends compte que ouais, s'il y a deux ou trois sollicitations de plus, c'est mort. Je vais
Donc
péter
le
un câble.
réservoir là arrive à son
Voilà.
point de rupture.
Donc je me dis, bon, on va faire une balade. Et la balade me fait du bien et je pense que ça lui fait du bien à elle aussi parce que le mouvement, c'est toujours apaisant en fait. Ça permet de sortir un peu de sa tête, de se recentrer un peu sur son corps. Donc
Et puis vous avez la nature juste à côté de chez
oui.
vous, donc ça joue beaucoup sur l'oxygénation, sur la chlorophylle, sur le vivant en fait, le vivant avec un grand V. Vous avez les insectes, vous avez les animaux, vous avez le bruit des oiseaux, vous avez les arbres. C'est pas sortir dans le jardin pour jouer au ballon, c'est vraiment la grande nature,
Oui.
la grande sortie.
Par rapport à ce que tu dis, je me souviens d'une. Mais je crois que c'était la toute première grosse crise en public. De le point que tu t'en souviens, tu
On s'en rappelle tous de la première.
vois. Faisais une balade pourtant et je me souviens plus ce qui s'est passé. C'est peut-être un gâteau qu'elle voulait ou un truc comme ça et je ne sais pas pour quelle raison je ne pouvais pas lui donner. Et du coup, elle a commencé à faire sa crise. On était sur un, pas vraiment des quais, mais il y avait un plan d'eau à côté. Et du coup, elle se met à hurler de ouf. Et du coup, à ce moment-là, je la portais en poussette. Au début, je me dis, on va continuer quand même. C'est bon, ça n'existe pas.
Ça va
C'est
passer,
bon.
ça va passer.
C'est ça. Sauf que ça passe pas et puis ça s'accentue au point qu'elle se tendait de toutes ses forces dans la poussette. Donc en fait, presque, ça devenait dangereux pour elle. Donc je me suis arrêté, je me suis mis à son niveau et j'ai essayé de calmer sa crise. C'était pas possible. Il y a une maman à un moment donné qui me voyait, qui est venue me voir en me disant, vous voulez de l'aide et tout. Je fais, bah, vous voulez m'aider comment? Au final, elle était autant démunie que moi, donc elle est pas restée. Et en fait, ce qui a désamorcé le truc, c'est que j'ai vu un oiseau. Et je lui ai dit, regarde, t'as vu l'oiseau, machin? Et en fait, elle s'est concentrée sur l'oiseau. Ça l'a déconnectée de sa colère tout de suite. Alors après, les fois suivantes, ça n'a pas toujours fonctionné. Quand il y avait un moineau ou un pigeon à côté, ça n'a pas toujours fonctionné. Mais cette fois-là, c'est vrai que ça a fonctionné. Et comme tu disais, en fait, le vivant, quand tu peux aller te balader en forêt ou sur la plage, ça fait quand même beaucoup de bien, autant à nous qu'à nos enfants.
Ouais, tu passes de l'intérieur où vraiment on maîtrise pas tout à l'extérieur où ça bouge tout le temps. Il y a toujours quelque chose à regarder. Que ce soit un escargot, un oiseau ou le nuage. Tiens, il a une drôle de forme ce nuage. Ça fait un peu diversion, hein, peut-être pour les gens qui nous écoutent. Mais quand un enfant pleure et quand on lui dit, oh, regarde ce nuage, on dirait une pomme. Une fois sur deux, quand même, ça marche. Et c'est tellement facile à dire plutôt que de s'énerver en disant arrête de chouiner, tu m'agaces, t'es pénible, j'en ai marre, je te l'ai déjà dit. On bazarde en fait tout ça. Mais ça nous demande, nous, de respirer un bon coup, d'aller boire un verre d'eau, de faire un tour sur nous-mêmes et de se dire ça va passer. Et ensuite, on peut lui proposer une petite technique de diversion en attendant de comprendre l'origine de la crise. Hein, parce que si on ne la comprend pas, l'origine, elle va revenir. Mais ça nous permet, nous, de prendre un tout petit peu de recul parce que quand nos enfants crient et pleurent, on a un petit peu le cerveau qui s'arrête parce qu'on n'arrive plus à réfléchir dans les cris et dans les pleurs.
C'est clair.
Et ça alerte tous les gens autour de nous quand on est en public, ce qui est quand même toujours un peu sympathique.
Ça te rajoute pas du tout de pression.
Non. Et puis, ils ont sûrement la même vision de l'éducation que toi, en plus, donc c'est tout
Ouais.
bénef. Si la dame venait en disant, il faut être plus ferme, monsieur, hein, ou, comment ça, vous allez pas la punir? Bon, on arrive à ce bon sujet. Alors, comment vous avez tranché sur l'autorité, les punitions, le rôle du père à l'ancienne, tu vois, le rôle patriarcal? C'est quelque chose auquel tu réfléchis depuis des années. Comment est-ce que tu as trouvé ta place de chef de famille?
En l'apprenant pas, cette place de chef de famille.
Je ne suis pas le chef de famille.
Voilà. Ça, c'est pareil. Avant même d'être parent, tu vois, ça a été un lourd sujet de sexisme et de tout ce qu'on veut, mais ça a été un gros sujet aussi de remise en question, de doute et tout ça. Mais souvent, l'entourage disait, c'est Julie qui porte la culotte. Voilà. On habitait ensemble, qu'on commençait à avoir un travail et tout. Les gens commençaient à dire, ouais, c'est Julie qui porte la culotte. Parce que je suis plus introverti, parce que je ne correspond pas au stéréotype de genre masculin, qui parle très fort, qui boit de l'alcool, qui rote, qui tape sur la table et tout ça, tu
La fiche parfaite.
Voilà. Donc c'est Julie qui porte la culotte, parce que Julie, effectivement, c'est une fille qui parle beaucoup plus que moi, qui a un caractère fort et du coup, elle dit les choses et elle se laisse pas marcher dessus. Et donc, en fait, par ces images qu'on projetait, les gens disaient que c'était Julie qui portait la culotte et que moi, je suivais, j'étais le suiveur du couple. Et du coup, au début, c'est vrai qu'on avait tendance à tout de suite rentrer dans l'opposition et dire non, mais il n'y a pas de culotte. Il n'y a pas de culotte. On est tous les
On a
deux.
détourné tout ça, il n'y a pas de culotte, attention.
Il n'y a pas de culotte. On est tous les deux les copilotes. Tu vois, super. Mais en vérité, de leur vision, au final, aujourd'hui, avec le recul et tout ça, oui, ils n'ont pas tort. Julie est plus meneuse sur les aspects extérieurs, en fait, les aspects visibles. Et aujourd'hui, dans notre travail, ça se confirme aussi. C'est elle qui a créé notre entreprise. Et du coup, ça me tient aussi à cœur que du fait que ce soit elle qui l'ait créée, qu'elle reste quand même décisionnaire finale sur les prises de décision et tout ça. Alors certes, je donne mon avis critique, je propose des choses et tout, mais ça me tient à cœur que ce soit toujours elle qui ait le dernier mot, puisque c'est son bébé, entre guillemets, c'est elle qui l'a créé. Moi, je suis arrivé ensuite et ça me paraît normal de ne pas chercher à m'accaparer la grosse part du gâteau. Enfin, voilà. Même si c'est une façon vulgaire de le dire, ils ont pas si tort que ça. Oui, elle porte la culotte sur ses aspects extérieurs.
Mais est-ce que ça biaise justement que vous ayez installé ce système-là au niveau pro, puisque vous bossez maintenant ensemble et à domicile et dans la même entreprise, et que après, à l'arrivée de l'enfant, ils aient pu se dire, bah, ça va être pareil aussi dans leur mode de fonctionnement de famille.
Ouais.
Est-ce que ça a induit ça? Parce que vous
Ben,
auriez pu avoir des rôles différents dans la famille et dans
oui.
l'entreprise.
Je sais pas, là, tu vois, pour le coup, depuis qu'on est parents, c'est vrai qu'on entend beaucoup moins ce truc de peut-être parce que je m'exprime, parce que comme c'est des sujets qui m'intéressent énormément, je m'exprime beaucoup plus que sur les sujets qui m'intéressent pas. Ils se rendent compte que, tiens, Rémi, il a une langue, en fait.
En fait, vous
Rémi
vous
parle.
affirmez sur vos sujets de prédilection tous les
Voilà.
deux.
Ben, en fait, si tu veux, le truc, c'est que mon entourage ne s'est jamais vraiment intéressé à mes centres d'intérêt. Et moi, ben, je faisais pas l'effort non plus, en fait. Hein. Quand les gens parlaient de foot et de machin et tout ça, ben, c'est pas mes centres d'intérêt. On s'intéresse pas à mes centres d'intérêt, je vais pas m'intéresser aux leurs. Alors, pour autant, ça veut pas dire que je parle pas du tout. C'est vrai que je suis pas en mode rejet total en disant non, mais le foot, j'en ai rien à faire. Je vais dire quelques mots par-ci par-là, mais je vais pas avoir une discussion passionnée sur le sujet. Alors que sur la parentalité, des sujets qui ne venaient absolument jamais quand on était pas parents, alors que ça m'intéressait de base, tu vois. Mais quand on est devenu parents, là, évidemment, les sujets sont venus. Et souvent, souvent, pour critiquer et attaquer nos façons de faire. Et là, tout de suite, ils se sont rendus compte que j'avais des choses à dire et que je les disais. Est-ce que ça leur a fait se remettre en question sur cette question de culotte? Peut-être. Mais en tout cas, du coup, c'est vrai qu'ils en parlent plus du tout aujourd'hui. Mais tout ça pour dire effectivement qu'en fait, ça dépend des différents aspects de notre vie. Il y a des choses sur lesquelles où effectivement Julie est plus meneuse. Il y a des choses où c'est moi qui est plus meneur et c'est une question, j'allais dire d'équilibre, mais c'est pas tellement ça, mais c'est juste une question des centres d'intérêt de l'un et de l'autre et des points forts de l'un et de l'autre.
Moi, je
J'ai
t'ai
pas
envoyé sur cette question parce qu'en fait, pour t'avoir côtoyé quand même des heures et des heures sur Clubhouse, J'ai l'impression que tu n'es pas là pour convaincre qui que ce soit de tes prises de position, alors que dans l'imaginaire collectif, le chef de famille doit montrer qu'il a réfléchi des heures et des heures pour affirmer ses lois intérieures de la maison. Et toi, tu ne te sens pas, de ce que je comprends, hein, de votre vie, dans l'obligation d'expliquer à tout le monde que tu as réfléchi à ça et de convaincre avec thèse, antithèse, synthèse, aux gens qui finalement ne sont pas compétents pour juger de la pertinence ou non de vos choix éducatifs en famille, sur l'école, sur l'autorité. C'est pour ça que je voulais aussi te poser cette question-là, parce que l'autorité vis-à-vis de la société, c'est effectivement l'homme qui décide, l'homme qui fournit, l'homme qui ramène l'argent, l'homme qui dit comment se comportent les enfants et la femme et tout. Et finalement, comme tu t'opposes à ce rôle à l'ancienne, mais que tu te sens pas obligé non plus de défendre l'inverse, ça peut être tentant par rapport à l'éducation que tu veux donner à Charlie, d'expliquer quand même que tu as des idées, des opinions, sans être obligé de faire campagne, de faire conférence, tu vois.
Oui. Je pense qu'au début, je pouvais tomber dans ce truc de chercher à convaincre de... Très vite, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop énergivore et que j'avais pas à me justifier aussi. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté et je me suis dit simplement que si les personnes me posent des questions et qui sont intéressées de comprendre mon cheminement, alors je répondrai. Mais si c'est juste des attaques, des remarques qui ne n'apportent rien, bah je réagirai pas. Effectivement, c'est ce qui se passe, c'est que je ne réagis pas. J'ai pas l'impression que ça dérange. Les gens sont contents de pouvoir dire ce qu'ils disent et de pas être contredit. Mais du coup, oui, je suis plus dans ce truc de chercher à convaincre. Et pour cette figure d'autorité, je pense que ça se fait assez naturellement par intuition et aussi par discussion avec Julie. Puis aussi par des remises en question, en fait, hein, tout au long de cette aventure de la parentalité où, au fur et à mesure, on peut effectivement se rendre compte qu'il y a des choses, soit qui fonctionnent pas comme on aurait imaginé que ça fonctionnerait, soit parce que on entend des choses qui font tilt dans notre tête et on se dit, ah, tiens, c'est vrai que par rapport à cette question d'autorité, j'ai du mal à vraiment me rendre compte à quel moment est-ce que ce soit Julie ou moi, à quel moment on est vraiment dans cette posture d'autorité. Effectivement, dans ces moments où je te disais, où je me rends compte que vraiment il faut qu'on sorte dehors parce que parce que ça ne tient plus. Et donc là, je la prends, même si elle a plus envie. Là, effectivement, peut-être que je suis dans une posture d'autorité, mais du coup, c'est là où je te dis que ça se fait par intuition. Je me dis pas, tiens, il y avait cette règle qu'on avait mis en place, donc il faut absolument que je l'applique. À aucun moment, tu sais, je me réfère aux règles implicites ou pas de la maison.
En plus, c'est très vaste, hein, le mot autorité. C'est
oui.
Plus, vous êtes d'accord sur les principes éducatifs que vous voulez pour votre fille. Il y en a pas un qui laisse tout faire et l'autre qui est hyper sévère. C'est plus dans ce rôle-là de trouver ta place de père, quel que soit le genre que tu as choisi, toi, vous avez autant, je crois, le rôle du bad cop et du good cop, quoi.
Oui.
Vis-à-vis de Charlie, vous avez les mêmes rôles, vous avez les mêmes règles, vous avez la même cohérence éducative. Est-ce que ça a été facile de te dire, ben, j'ai le même rôle que ma femme, malgré des siècles et des siècles de patriarcat?
Avant d'être parent, j'ai eu ces questionnements de me dire, je corresponds pas à l'image de l'homme. Et même pendant mon enfance, j'étais pas accueilli dans le groupe des garçons. C'est comme si c'était la destinée, le destin de ne pas correspondre à ce rôle. Mais c'est quelque chose du coup que j'ai gardé avec moi tout au long de ma vie, avec l'enfance, l'adolescence et tout. Au moment où je suis devenu adulte, c'est vrai que je me suis posé ces questions parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une ambivalence à me dire. Je déteste tous les stéréotypes qui sont liés à la masculinité. Je trouve ça très toxique. Et d'un autre côté, vis-à-vis de l'extérieur, de l'entourage, c'est plus...
Valorisant.
Ouais, c'est plus valorisant, voilà, de correspondre à ces stéréotypes-là. Donc, d'un côté, je détestais les stéréotypes et de l'autre, je l'enviais un peu. Donc, j'ai eu cette ambivalence-là sur laquelle j'ai dû travailler, entre guillemets, parce que bon, j'ai pas fait de thérapie sur ce truc-là, précisément. Plus une réflexion que j'avais en fond, qui s'est fait toute seule, plus ou moins, mais des réflexions que j'avais tout au long de ces différentes années. Et du coup, ce travail s'est fait en amont de la naissance de Charlie. Et quand Charlie est arrivé, on a le même rôle, Julie et moi. Est-ce que c'est grave? Est-ce que... comment ça va se passer par rapport à l'image que Charlie va avoir de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme, de ce qu'est un père, de ce qu'est une mère? Enfin, je sais pas, ça coulait de source, du coup.
Ben, d'autant que vous n'êtes pas confronté à tout ce qu'elle aurait entendu si elle était en classe.
Oui.
Par rapport à l'avis de ses copains-copines, par rapport aux thèmes abordés en classe scolaire, tu vois, les sujets de réflexion, les albums, finalement, vous êtes encore dans une certaine maîtrise de ce qu'elle comprend d'une famille, d'un couple, d'une organisation, puisqu'elle n'est pas tout le temps, toute la journée, confrontée à d'autres modes de pensée.
Oui.
Mais ça va sans doute évoluer quand elle ira en vacances au centre de loisirs avec d'autres groupes. Elle va forger l'idée que ce qu'elle vit chez elle n'est pas du tout ce que les autres vivent dans leur maison. Et là, peut-être, tu auras des questions intéressantes de sa part en disant, ah, mais les autres papas, ils font pas comme toi, ou les autres papas ceci. Ça a déjà commencé des fois ou pas encore?
Non. Ce qui est marrant, par contre, c'est que tu vois, au parc, là, aujourd'hui, puis ça fait un moment que c'est plus le cas, mais je porte pas de vernis. Par contre, j'ai des moments où j'en porte. Et au parc, c'est arrivé que des enfants me demandent ou demandent à Charlie, pourquoi ton papa, il porte du vernis? Du coup, ça aurait pu être une question qu'elle aurait pu me poser après. Mais pourquoi tu portes du vernis, papa? Les autres papas, ils le font pas. Et en fait, elle a répondu tout simplement parce qu'il a envie.
J'adore.
Et ça l'a pas, alors peut-être parce qu'elle est encore petite, ça l'a pas interrogée, ça a pas mis une graine dans sa tête à se dire, oh là là, mais
Une norme, ouais, elle n'a
ouais.
pas fait la référence à la norme extérieure.
Non, ça m'a fait beaucoup sourire quand j'ai répondu parce qu'il a envie. J'ai trouvé ça très bien.
Et toi?
Mais du coup, ouais, c'est marrant. Donc, elle est quand même déjà un peu confrontée à ces différences de normes avec les autres enfants. Mais pour le moment, c'est vrai que ça ne la remet pas en question, ça ne lui fait pas, ça ne l'interroge pas. À voir si ça finira par arriver, sans doute.
Retrouve-nous avec Rémi la semaine prochaine pour aborder notamment le thème de sa communauté sur les réseaux sociaux et puis son rapport aux émotions fortes. Belle semaine à toi!
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite!